international, Yevin Mwinga.
Fin de la transition en RDC demain mercredi avec l'investiture de Joseph Kabila, vainqueur du second tour de la présidentielle. Que deviennent les quatre vice-présidents et les autres institutions de la transition? Réponse dans ce journal. L'actualité, c'est aussi la reprise des combats entre forces gouvernementales et éléments fidèles à Laurent Kunda ce matin. Et cette fois-ci, c'est dans le secteur de Runyoni, près de la frontière ougandaise. Conséquence, des populations fuient vers l'Ouganda. Et puis, les humanitaires veulent gagner un pari en RDC, à savoir réduire le taux de mortalité et faciliter le retour des réfugiés. Mais les bailleurs de fonds ne se précipitent pas. Les raisons de cette hésitation avec le coordonnateur des agences humanitaires des Nations Unies, Ross Mountain. Bonsoir à tous. Joseph Kabila prête serment demain mercredi à Kinshasa. L'investiture du vainqueur du second tour de l'élection présidentielle marque la fin officielle de la transition en République démocratique du Congo. Mais que deviennent les quatre vice-présidents et les autres institutions de la transition? Voici la réponse que nous propose Peli Kipela-Mondo, qui a consulté tour à tour la constitution de la transition, la constitution issue du référendum et quelques experts.
La constitution de la transition stipule « La transition prend fin avec l'investiture du président de la République élu à l'issue des élections. » La nouvelle constitution, celle de la Troisième République, stipule « Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente constitution et exercent leurs attributions conformément à la constitution de la transition. » À la lumière de ce qui précède, on peut donc comprendre que légalement, l'investiture du président démocratiquement élu met fin à l'existence de quatre vice-présidents. C'est simple à comprendre. Pendant la transition, au sein de l'institution président de la République, on avait les présidents de la République et les quatre vice-présidents. Mais sous la Troisième République, la Constitution ne reconnaît pas l'existence des quatre vice-présidents. En d'autres termes, dans la Troisième République, il n'y a pas de poste correspondant à ceux des vice-présidents. Au sein de l'institution présidence de la République, le président est donc seul. Il n'est pas secondé par des vice-présidents. S'agissant des autres membres du gouvernement de transition, c'est-à-dire les ministres et les vice-ministres, la nouvelle constitution affirme qu'ils vont rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. Dans la pratique, une question se pose. Qui va présider les grandes commissions gouvernementales en l'absence de vice-présidents? Sur ces points, les avis des spécialistes sont partagés. Les uns estiment que le président pourrait nommer des coordonnateurs intérimaires qui seraient chargés de coordonner les commissions gouvernementales jusque-là animées par les vice-présidents. D'autres pensent que les chefs de l'État pourraient confier la charge de coordonnateur intérimaire des commissions gouvernementales au vice-président. Cette fois-là, ces derniers ne s'appelleraient plus vice-présidents et ils n'auront plus d'autres prérogatives.
En prévision de l'investiture du président élu, la garde républicaine est déployée depuis tôt ce matin à travers le centre-ville et dans plusieurs endroits à Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur confirme ce déploiement. Denis Kaloumé a d'ailleurs précisé que la protection du chef de l'État et de ses hôtes relève des attributions de la garde républicaine. Denis Kaloumé est joint au téléphone par René Capita.
Ça fait partie des missions normales de la garde républicaine qui est... La protection du chef de l'État et de ses hôtes. Et comme vous le savez, demain, et déjà à partir d'aujourd'hui, plusieurs invités du chef de l'État seront dans notre pays, c'est la capitale. Et c'est dans ce cadre que la garde républicaine doit non seulement sécuriser certains sites, mais aussi les itinéraires que ces chefs d'État vont emprunter pour rejoindre le palais de la nation. Ils ont reçu des instructions strictes pour qu'ils fassent leur travail sans pour autant fracasser la population.
Denis Kaloumé, ministre de l'Intérieur, notait aussi qu'il y a eu bouclage ce matin dans la commune de Lingwala et une partie de la commune de Kinshasa, toujours dans la capitale. Ce sont des mesures sécuritaires, a souligné le gouverneur de la ville. L'opération a débuté à 2h du matin pour s'achever vers 9h. Toutes les sorties comme les entrées étaient contrôlées par la police. Cependant, les habitants de ces deux communes déplorent la manière dont cette opération a été menée. On écoute le témoignage d'un habitant de la commune de Lingwala au micro de Kelim Kouté.
Il y a beaucoup de voyous et de délinquants à Lingwala. Certains d'entre eux se promènent avec des machettes et blessent les innocents. C'est ainsi que nous avons demandé le concours de la police afin de mettre hors d'état de nuire ces groupes qui sèment du désordre. Celle-ci a fait son travail, mais nous remarquons qu'elle n'a pas vraiment arrêté ces délinquants. Ce sont plutôt les innocents qui ont été appréhendés. Nous nous étonnons. Nous ne comprenons pas comment la police effectue son travail. Il convient d'identifier chaque adversaire là où il se trouve. Si vous connaissez qui arrêter, et c'est bien à cet endroit que vous devez être. On vous indique un site et c'est là que vous devez vous rendre. Vous ne devez pas causer des débordements et priver les gens de se déplacer et faire des bouclages, surtout que demain c'est férié.
Le gouverneur de la ville, l'amiral Liwanga, a ajouté que l'opération va s'étendre dans d'autres quartiers, mais demande à la population de ne pas s'inquiéter. De nouveaux combats signalés depuis ce matin entre les FRDC et des éléments insurgés fidèles à Laurent Kunda dans le secteur de Runyoni, près de Bunagana, à la frontière ougandaise. Les populations de Runyoni, de Tchengerero, de Djomba et de Bunagana en territoire de Rutshuru auraient commencé à fuir vers l'Ouganda voisin. Jusque-là, le territoire de Rutshuru était épargné par les combats qui ont commencé le 24 novembre dernier autour de Sake, près de Goma. Le point avec Charles Ntirisha.
D'après des sources militaires, après la localité de Runyoni, tôt le matin de ce mardi, ce sont les localités de Djomba et de Bunagana à la frontière avec l'Ouganda qui sont tombées sous le contrôle des insurgés fidèles en Kunda en début d'après-midi. Le bilan des affrontements n'est pas encore connu selon toujours la même source qui indique que des renforts ont été envoyés dans les secteurs. Dans l'avant-midi ce mardi, les combats avaient baissé d'intensité mais les militaires de la 9e brigade intégrée affirmaient faire face à des tirs contre leur position, notamment dans les collines qui surplombent la cité de Bunagana à la frontière avec l'Ouganda. Les habitants des localités occupées, mais aussi des localités voisines, ont fui pour la plupart vers l'Ouganda voisin, indique l'administrateur de Rutshuru résident à Bunagana. Des habitants joints au téléphone affirment que l'attaque de ce jour serait l'œuvre d'hommes armés qui auraient traversé le parc national de Virunga depuis 2 semaines. Depuis les affrontements entre des insurgés fidèles en Kunda et des militaires loyalistes dans les Masisi il y a 2 semaines, c'est pour la première fois que des localités du territoire de Rutshuru sont attaquées par des insurgés. Charles Ndrigicha, Goma, Radio Kapi.
Autre nouvelle, lancement ce mardi du plan d'action humanitaire 2007 en RDC. Les humanitaires s'assignent 2 objectifs prioritaires pour l'année prochaine, à savoir réduire le taux de mortalité et faciliter le retour des déplacés, des réfugiés ainsi que l'intégration des anciens combattants dans la société. Selon le coordonnateur des agences humanitaires des Nations Unies, ce chantier exige une somme de plus de 680 millions de dollars américains, somme presque identique à celle de l'année dernière. Pour Ross Mountain, même si ce montant n'a été financé en 2006 qu'à hauteur de 40%, c'est cependant une avancée très significative. Qu'est-ce qui explique l'hésitation des bailleurs de fonds à financer les actions humanitaires en RDC? Réponse du représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur des agences humanitaires des Nations Unies, Ross Mountain. Il est au micro de Jacques-Yves Molima.
Oui, c'est une crise, une des crises, peut-être la crise la plus catastrophique du monde. Mais il y a pas mal des autres crises, comme vous savez, dans le monde. Mais ici, auparavant, les gens ne voyaient pas clair qu'on peut vraiment faire quelque chose d'utile dans ce vaste pays avec tous leurs problèmes. Et en plus, c'est la réputation du Congo qui n'était pas la meilleure pour la gestion de finances. Alors maintenant, il y avait beaucoup de monde qui, à travers les élections, ont compris la volonté de la population. Et en plus, ils ont vu les besoins du pays. On est pas mal optimiste qu'on peut aller en avant l'année prochaine. Et encore, je répète, les bailleurs ont donné beaucoup plus cette année que l'année avant. Et on avait des espoirs pour l'année qui vient.
Plus à l'ouest du Congo, 7 morts et des blessés graves. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu hier sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Selon une rescapée, leur bus en provenance de Boma a cogné un gros véhicule en stationnement au niveau du village Boko, à plus de 25 km de la cité de Mbanzangungu. Plus de détails avec Dani Kindantita.
Selon l'une des rescapées, c'est aux environs de 4 heures du matin que ces bus de marque Mercedes avec à son bord une cinquantaine de passagers en provenance de Boma a percuté un poids lourd en stationnement au village Boko à plus ou moins 25 km de la cité de Mbanzangungu. Le bilan sur place était de 6 morts et plusieurs blessés graves. Un passager a trouvé la mort après leur acheminement à l'hôpital de référence d'Nsonankulu par la Croix-Rouge. Pour l'instant, les corps des victimes de cet accident se trouvent à la morgue à l'hôpital général d'Nsonankulu dans la cité de Mbanzangungu.
Kanzangungu. Pour l'heure, la police des roulages a ouvert une enquête pour déterminer les causes réelles de cet événement malheureux. Matadi Danikin dans Zita Radio Okapi.
Et puis cet autre sinistre dans la province de l'Équateur, 580 ménages touchés par l'inondation de la localité de Bumba dans la province de l'Équateur, constat d'une mission humanitaire dimanche dernier. Selon le rapport du Bureau des Nations Unies de coordination de l'aide humanitaire, 46 cas de diarrhée et 76 cas de malaria sont déjà enregistrés à Bumba. Les personnes les plus touchées sont des enfants âgés de 0 à 5 ans. Selon le médecin-chef de zone de santé de Bumba, il est à craindre qu'on enregistre des épidémies dans les jours qui viennent. Docteur Tassis Elongo, médecin de l'OMS Équateur, nous décrit la situation au micro de Béatrice Nabindi.
La population, elle est sinistrée, elle vit dans des conditions difficiles parce que quand vous regardez la situation des abris, ça fait autour de 601 maisons qui sont submergées. Parmi les habitants de ces maisons, il y a ceux-là qui sont partis vivre dans de familles d'accueil, donc avec la promiscuité. Il y a les autres qui restent toujours dans leur maison, où ils dorment dans des pirogues, mais dans leur maison, où ils font tous leurs besoins domestiques dans la pirogue, mais dans leur maison, bien dans leur parcelle. Concernant la situation sécurité alimentaire, on a vu des champs de riz qui sont dévastés par les eaux. Il faut dire qu'avec aussi la montée des eaux, la situation de la pêche devient un peu difficile. La situation de la santé se présente en ces termes, c'est qu'il y a maintenant une notification importante des cas de maladies d'origine hydrique, parce que vous voyez quand même qu'il y a les latrines qui ont déversé tout leur contenu dans cette eau. Mais ce qui est bien dommage, on a trouvé des enfants en train de jouer dans cette eau. Et donc il y a des cas de paludisme, mais tout comme aussi il y a des cas d'infections respiratoires.
Les anciens combattants de Lubumbashi boudent, ils contestent la décision de vente d'une concession qui leur avait été attribuée par l'État congolais en 1991. Ce terrain comprenant plus de 600 parcelles individuelles fait l'objet de négociations entre le ministère de la Défense et la compagnie minière Huachi Mining. Plus de précisions avec Paul Kaboba.
La grande question pour les anciens combattants est de savoir si le gouvernement va leur bâtir des maisons à la place des parcelles qui vont être achetées par Huachi Mining. Pourquoi ont-ils vendu? C'est un terrain qui nous a été attribué. S'ils nous donnent un autre terrain, l'État a-t-il prévu de construire pour nous? Nous avons voulu construire des maisons à cet endroit. Nous sommes des anciens combattants, il y a des veuves et des orphelins. Ce n'est pas bien qu'ils nous donnent notre terrain. Pour le vice-ministre de la Défense chargé de la démobilisation, avec l'argent récolté par cette vente, l'État va construire un bien profitable à tous les anciens combattants. À ceux qui disent que cette concession a été sous-évaluée, Delmambo, vice-ministre de la Défense, répond que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État qui en dispose à son gré.
Vous savez, le sous-sol et le sol appartiennent à l'État. Vous pouvez être sur une parcelle qui a dans le sous-sol des minéraux. Les minéraux ne vous appartiennent pas. Ça appartient à l'État et l'État en dispose comme il l'entend.
Selon le vice-ministre chargé de la démobilisation, l'accord de vente sera signé incessamment entre les avocats du ministère de la Défense et ceux de Huachi Mining, Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
L'arbre à l'honneur ce mardi, c'est la journée nationale de l'arbre, terme retenu. L'arbre assure la couverture du sol, mais toutes les provinces de la RDC connaissent une déforestation prononcée. Au même moment, les exploitants forestiers n'assurent pas le reboisement. La secrétaire générale de la Fédération du bois en RDC affirme que les exploitants forestiers paient à l'État des recettes destinées à reboiser. On écoute Madame Françoise Van den Ven au micro de Guy Maté.
La raison elle est multiple. Hein. Nous payons donc sur toutes nos valeurs à l'export une taxe de 4% qui sert au reboisement. C'est payable avant qu'on puisse obtenir la licence d'exportation. De deux, ce montant-là, qui est quand même 4% sur la valeur FOP, qui n'est pas les moindres, devrait permettre de faire des actions de reboisement. On entend que le ministère le fait au niveau du plateau de Bateke, par exemple, ils ont reboisé, comme j'ai entendu tout à l'heure, 10 000 hectares. Donc c'est sûr et certain, c'est le fonds de reconstitution du capital forestier qui a été utilisé pour ça. Donc, c'est nos paiements. À part la taxe de reboisement que nous payons, nous ne sommes pas obligés de faire autre chose. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a certaines sociétés qui ont commencé à reboiser des terrains qu'ils ont trouvés, eux, vides, donc après agriculture, donc culture sur bleu riz, et qu'eux-mêmes commencent à le faire.
Ce fonds existe effectivement au ministère de l'Environnement. Il est destiné à assurer le reboisement. Mais le directeur de ce fonds attribue le manque de réalisation au contexte sociopolitique du pays et au retard enregistré dans la rétrocession des recettes. Le directeur du fonds de reconstitution du capital forestier au ministère de l'Environnement, Mathieu Katsouva, répond au micro de Guy Maté.
Effectivement, ce service existe. Cet service spécialisé du ministère de l'Environnement est dénommé Fonds de reconstitution des capitales forestiers, dont la mission est de percevoir le taxe forestière et affecter le fonds perçu au financement des activités de reboisement et d'aménagement forestier. Cependant, depuis un certain nombre d'années, avec la conjoncture socio-politico-économique que le pays a connue, les exploitants se sont retrouvés à difficulté. Ainsi, ils se sont aussi retrouvés dans les capacités de pouvoir payer ces taxes-là. Et cela a eu comme conséquence la régression des activités de reboisement que nous avions amorcées. Un autre effet qui est récent, depuis mars 2005, le gouvernement a décidé que toutes les recettes soient déversées dans les comptes du trésor public. Ainsi, il fallait aussi procéder à une rétrocession. Et cette opération de rétrocession aussi a été l'une des causes de la régression de nos activités de reboisement.
C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet www.radiookapi.net. Okay.